quête de sens vous est présentée par la Mutuelle Saint-Martin. Mutuelle santé efficace et fraternelle depuis 75 ans. Quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
Tu seras un homme, mon fils, gérait Rudyard Kipling aux jeunes hommes de sa génération. Alors entre ceux qui se masculinisent, ceux qui n'osent pas croiser le regard des femmes dans la rue, naît-on homme ou le devient-on en 2025? Bref, quelle image de l'homme faut-il transmettre à nos fils? Eh bien, c'est la question du jour dans cette émission En quête de sens. J'ai la grande joie pour en parler d'accueillir mes trois invités qui sont pour commencer Magali Crozet-Cabot.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir. Vous êtes psychologue, sexologue et essayiste. Vous avez publié une quinzaine d'ouvrages dont L'axe sexualité, qu'est-ce que ça change? Ça, c'est le tout dernier qui est paru chez Labor et Fides. Et puis, on peut mentionner également Les révolutions de l'orgasme aux éditions L'Observatoire. Nos sexes en 2023 qui nous parle aujourd'hui en lien avec cette émission peut-être. Et puis votre podcast Orgasmia, bien évidemment le 8e épisode, hein, c'est ça?
Absolument.
Pas sorti.
Oui, tout à fait.
Bravo. Et vous continuez à recevoir également vos passions.
Absolument.
Et vos clients. Magali, merci d'être là. Nous sommes également en compagnie de Mariette Darigrand. Bonjour Mariette.
Bonjour Mariette.
Ravie de vous revoir, vous retrouver. Vous qui êtes toujours sémiologue, directrice du cabinet des signes, vous êtes toujours spécialisée dans l'analyse des discours médiatiques ambiants. Vous avez publié évidemment de nombreux articles, des livres sur le langage. Et on peut aussi préciser que vous animez le blog L'Observatoire des mots et que vous avez publié surtout des ouvrages en lien, tous un peu en lien hein, avec notre émission du jour finalement, Mariette. Mmh. Viril comme Vénus.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on cite d'autre? Les Amazones.
Les Amazones. Bah, disons que la question du masculin et du féminin me passionne.
Voilà, en gros. Merci d'être là. Et enfin, nous sommes en ligne avec Charles Wright. Bonjour Charles.
Bonjour Marie-Ange.
J'ai l'impression d'écorcher votre nom à chaque fois que je le prononce, même dans ma tête, vous voyez, quand j'ai lu votre livre. On m'a dit Charles Wright.
C'est très très bien, bravo.
Ça vous va?
Bravo.
Ben écoutez, merci en tout cas d'être en ligne avec vous, vous qui êtes certainement en Ardèche en ce moment, on l'imagine.
Exactement.
Bah voilà, qui vivait entre l'Ardèche et Paris, maintenant qu'on sait presque tout sur vous après la lecture de votre livre, le dernier, Le Jardin Anglais, chez Albin Michel. D'abord, on a l'impression, c'est très frais, c'est rafraîchissant, puisque c'est un voyage, votre ouvrage, Charles Wright, au-delà du fait qu'il s'agit quand même d'une rencontre, enfin d'une relation que vous racontez finalement, pour rester en lien avec l'émission, avec votre père, une découverte, une redécouverte de votre père, Charles Wright. Voilà, évidemment, un voyage haut en couleurs et en émotions, n'est-ce pas? Votre deuxième aventure après Le Chemin des Estives, qui avait cartonné chez Flammarion, voilà, qui a reçu le prix de la liberté intérieure, si je ne me trompe pas, Charles Wright, hein, n'est-ce pas?
C'est ça.
Ben voilà, bravo, re-bravo.
Merci, merci.
Et bon succès à cet hommage d'abord à l'Angleterre, moi je trouve. Et puis surtout, votre rapport à votre père. C'est vrai que souvent on dit, voilà, Boris Cyrulnik le disait encore il n'y a pas si longtemps, la présence, l'identification, hein, le fait de nommer son père, sa mère, mon père, ma mère... permet de ne pas avoir un psychisme désordonné, disait-il, plus ou moins. Charles Wright, êtes-vous d'accord avec cette formule, vous qui avez quand même bien détricoté votre rapport à votre père à travers ce récit, au fond?
Ah, vous commencez fort avec des questions.
Pardon.
Non, oui, je suis d'accord. Moi, c'est un livre de... disons que toute mon adolescence, toute mon enfance, j'ai un peu, j'emploie le mot à un moment qui est un mot horrible, j'ai méprisé même un peu mon père. Je me suis beaucoup demandé comment cet homme étrange, ce barbu étrange, mutique, évasif, ce que je pouvais avoir reçu de lui. Donc je l'ai mis à distance et puis les années passant, un peu de sagesse arrivant avec les cheveux blancs, je me suis dit qu'il fallait quand même que je m'intéresse à lui.
Ouais.
Et donc on est parti... On est parti en Angleterre,
en pèlerinage, mon
père est anglais, chercher un peu à la fois notre histoire commune et puis essayer de percer le mystère, de l'énigme de mon père, de me rapprocher de lui avant qu'il soit trop tard.
Ouais.
Donc il y a Cyrulnik, mais c'est aussi finalement un peu le commandement biblique, hein. Tu honoreras ton père et ta mère. Voilà, j'ai essayé de. C'est un livre de repentir. Voilà, cet homme que j'ai traité par-dessus la jambe, j'ai voulu en faire un peu un héros de roman. C'était une façon de le réhabiliter.
C'est amusant parce que vous me faites penser, je ne sais pas si vous connaissez c'est Romain Rovert, si je ne me trompe pas, hein, que j'ai reçu dans Quête de sens d'ailleurs.
Marcher avec ma mère.
Marcher, voilà. En fait, j'ai retrouvé des choses similaires oui. dans votre rapport à votre père et lui, dans son rapport avec sa mère. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mesdames.
Je ne l'ai pas lu.
Ah, Nisha Wright, bon, je n'en parlerai pas dans l'émission, mais c'est vrai que c'est amusant parce que finalement, vous voyez, c'est un petit peu la résistance au courant, un peu psychanalytique, où c'est normal de couper le cordon avec ses parents, mais sous-entendu qu'il faut les détester, que c'est normal de rompre avec eux, même pendant un temps, de leur en vouloir pour ça, et que c'est pour ça que c'est à cause d'eux que nous sommes ce que nous sommes devenus, etc. Et vous, finalement, c'est très rafraîchissant parce que finalement, c'est des hommages. Alors, c'est quand même une forme d'hommage aussi à ceux d'où nous venons, quoi, finalement. Un hommage à nos parents, à nos aïeux, enfin bref. Je trouve ça assez... mais c'est assez récent, je trouve, cette espèce de contre-tendance, Mariette. Vous voyez, on en a souvent parlé, alors on sort un peu du thème de l'émission. Mais se réconcilier, finalement, avec notre père et notre mère, peut-être que c'est aussi faciliter la transmission. L'image que l'on se fait de ce que c'est un homme, une femme, nos parents, ce sont les premiers qu'on voit quand on est.
Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que nous vivons une époque probablement où l'heureux est très important, se réancrer, se réconcilier, se réparer. Et il faut le noter parce que nous venons d'une c'est pour moi un code, hein, c'est un petit détail sémiologique, mais c'est grammatical, mais très intéressant parce que nous venons d'une époque... où au contraire il fallait se détacher des choses, les rompre, il fallait faire du passé table rase. Même Freud, hein, finalement, avec son histoire d'imago paternel, et puis tu es le père, etc. Oui, non, mais c'est pas faux, je pense, c'est le métier plutôt de Magali, je ne m'aventurerai pas là-dessus, mais quand on regarde les discours de la société, oui, aujourd'hui, nous nous réconcilions, nous retrouvons, et je trouve, je n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai très envie de le lire après avoir écouté ce qui vient d'être dit, parce que je crois beaucoup aujourd'hui qu'en effet, nous avons besoin, les êtres humains ont besoin, en tout cas dans la société occidentale, après avoir beaucoup critiqué c'était biblique aussi, c'était évangélique, c'est-à-dire tu quitteras ton père et ta mère, quand même il y a ça aussi eh bien, d'en retrouver, mais peut-être en choisissant, hein, c'est quand même essentiel, on ne va pas se remettre sous l'égide du pater familias tyran domestique, mais en choisissant, en faisant notre curation, comme sur bien des sujets, eh bien oui, de nous remettre en lien.
Ouais. Oui, parce que vous vous moquez beaucoup de vous-même, comme le fait aussi d'ailleurs Romain Rovert dans son livre. On a une psy avec nous, attention, on ne rigole pas, Magali Crozet-Calisto. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette description un peu de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce qui est dans l'air du temps, qui ne facilite pas forcément aussi, il n'a pas facilité. Alors ça a créé des tas de libérations, on est bien d'accord. Hein, se libérer du rapport évoqué par Mariette, très paternalisant, etc., ou... on avait des images très préconçues sur les choses. Mais en même temps, cette réconciliation est peut-être nécessaire maintenant que nous avons détricoté tout ce qui pouvait.
Oui, absolument. Cette réconciliation, le mot réconciliation est vraiment un mot qui est capital en ce moment parce que les personnes sont en recherche, en quête en fait, de lien. Et le lien a été souvent perdu et ça s'explique d'un point de vue psychanalytique ou psychologique parce qu'on a changé de pulsion récemment, d'où les révolutions, dans les révolutions de l'orgasme ou les révolutions du no-sexe qu'on a pu évoquer en introduction. En fait, on est passé de ce qu'on appelle la pulsion de plaisir à la pulsion d'autoconservation.
D'autoconservation.
J'explique en deux mots. La pulsion du plaisir, donc c'est Freud hein, qui a nommé ces deux types de pulsions. Ces deux types de pulsions font partie de la pulsion de vie. Simplement, elles génèrent des comportements et des représentations différentes derrière. Et depuis les années, depuis le baby-boom, depuis l'après-guerre, hein, les 30 glorieuses, l'après-guerre, on était vraiment dans une pulsion, un principe de plaisir. Et ce principe de plaisir est allé jusqu'à une forme de paroxysme qui a mené notamment aux addictions, notamment sexuelles, pornographiques, et aussi à une forme de désenchantement à cause d'un trop-plein. Et aujourd'hui, je pense, en tout cas d'après toutes les études qui ont été menées et ce qu'on voit aussi en cabinet de consultation, qu'il y a eu une overdose, une saturation au niveau des représentations du plaisir et qui étaient présentées notamment à travers les industries du X et notamment aussi à travers les divorces, le nombre de divorces. Donc les personnes ne croient plus ou de moins en moins au mariage pour pas mal de monde. Donc à travers tout ça, beaucoup de personnes se sont dit « il va falloir se recentrer ». Le plaisir, le principe de plaisir ne nous apporte plus les promesses escomptées. Ouais, et ce principe de cette pulsion d'autoconservation, eh bien, c'est aller vers une forme de sobriété, vers se recentrer, retrouver de l'énergie pour pouvoir ensuite générer, créer quelque chose de nouveau. Donc, une forme de réconciliation entre le passé et l'avenir. Et là, on est entre les deux, dans un temps présent qui est un petit peu un temps suspendu, où beaucoup de questionnements affleurent et beaucoup de doutes.
Alors, je vous soumets ce sondage, Charles Wright. Plus d'un homme sur deux, je ne sais pas si vous reconnaissez là-dedans, déclare que les femmes s'acharnent sur eux, selon le rapport annuel du Haut Conseil, et c'est très sérieux, à l'égalité entre les hommes et les femmes, plus d'un homme sur deux. Par exemple, il y en a plein d'autres, hein, des espèces de chiffres alarmants là, sur les mauvais rapports, mais c'est une crise, hein, nous disent, c'est un moment, c'est un chantier. De relationnel, on le voit bien avec ce que vous venez d'évoquer d'une certaine façon, Magali. Charles Wright, il y a du boulot sur la transmission à faire, en gros, de l'homme, justement, pour éviter à nos fils, pour éviter d'une certaine façon à cette espèce de tendance de proliférer.
Alors, vous m'avez un peu perdu, je suis désolé. Bon, moi déjà, je suis pas père, hein. Alors je suis un peu embêté de donner des conseils.
Oui, mais vous en avez un, par contre.
J'en ai un, mais qui est un père un peu évanescent. Donc, ouais. Mais sur la question de, c'est sur la question quoi, de l'image de la relation des hommes avec les femmes.
Oui. Est-ce que vous voyez, est-ce que quand on est, est-ce que vous avez, ce que vous avez découvert de votre père, au fond, vous identifie ou pas tellement que ça, vous influence ou pas tant que ça dans vos rapports aux autres, aux femmes, autant qu'on peut l'imaginer, le supposer comme ça.
Bon, c'est la question du déterminisme héréditaire qui est en toile de fond. Hélas, je crains et je suis parti pour essayer justement de savoir ce que je devais à mon père, parce que c'est c'est un sujet. Qu'est-ce qu'on doit à cet homme? Dans quelle mesure on est? Il y a un destin généalogique. Mm-hmm. J'élargis un peu la question, je suis désolé, parce que sur la question des femmes, je ne pourrais pas vous répondre. Mais,
je vous en prie, c'est bien naturel.
Oui, mais à la fois, évidemment, que j'ai découvert que j'étais... qu'on tombe dans une famille, donc on reçoit des choses. Ouais. Et en même temps, je tiens ma foi chrétienne et puis de mon expérience qu'on ne peut pas être réduit à ces déterminations généalogiques. Il n'y a pas de destin, il n'y a pas de fatum familial. Donc, Dieu soit loué, je peux tracer mon histoire personnelle sans qu'elle soit la simple répétition de ce qu'a été le dessin de mon père. Je ne sais pas si ça répond un peu à ce que vous dites.
Et vous avez d'ailleurs une démarche, ce que je trouve assez intéressant, c'est que vous avez une démarche de curiosité, en fait. On a l'impression que vous essayez de percevoir, de scanner un peu votre père sans... Alors si, vous vous moquez de vous-même aussi, d'ailleurs, à ce niveau-là, mais on le sent un peu de lui, d'ailleurs. Mais comme si vous le découvriez de façon très, très, comment peut-on dire, sans arrière-pensée, c'est l'impression que ça donne un tout petit... En tout cas, dans la première partie, en tout cas.
Non, c'est ça, mais tout à l'heure, vous disiez que c'était pas une... C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres, hein, aujourd'hui, qui sortent dans une littérature de l'intime, comme ça, qui va un peu explorer l'histoire familiale, et c'est parfois un peu une littérature de ressentiment, de rancœur. Ouais. Moi, j'ai voulu faire un livre de gratitude. Ouais. C'est pour ça que ça me touche ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que cet homme est tout à fait imparfait, défaillant, mais comme tous les pères le sont. Ouais. Et pour autant, c'est lui qui a fait venir la vie jusqu'à moi. Et rien que pour ça, je crois que ça mérite d'être célébré. Et ensuite... Vous avez eu la gentillesse de rappeler Le chemin des estives, qui était un livre plus explicitement spirituel, peut-être. Mais je pense que ce livre l'est aussi parce que c'est un livre de décentrement. C'est-à-dire, j'essaie vraiment de faire l'effort de sortir de ma peau et de rentrer dans le... d'essayer de me décentrer pour comprendre qui est mon père. Donc, on part sur les lieux de son enfance, j'essaie de le questionner sur... Quels ont été les paysages qu'il a contemplés, les peurs qu'il a eues, les livres qu'il a eues, les prières. Enfin, vous voyez, j'essaie vraiment de rentrer dans son monde pour essayer de le comprendre.
Ouais. C'est ça qui est passionnant et qui nous rend. Vous nous proposez cette démarche de gratitude. Et Mariette Darrigrand, souvent vous regrettez vous aussi cette espèce d'élan de reproche dans tous les domaines que l'on peut avoir. Alors, quand c'est pas ses patrons, c'est ses parents. Quand c'est pas ses parents, c'est les amoureux, les époux, les conjoints, enfin tout. Voilà. Et c'est vrai que voilà, là, c'est comme s'il y avait une espèce de nouvelles, je sais pas, l'herbe qui pousse un peu sous le chaos, quoi, vous voyez ?
Oui, c'est ça. Ben, nous vivons des temps instables, hein, nous le savons, ouais. Des temps assez difficiles. Je crois beaucoup à l'idée de Magali, qui est qu'on est passé à autre chose que la dépense, le plaisir. Ça, c'était la grande société de consommation d'après-guerre. Aujourd'hui, et ce livre l'illustre, je crois, la quête de l'individu, c'est son identité. C'est qui je suis. Mais qui je suis, ça passe d'abord par qui m'a fait. Ouais. J'aime beaucoup la formule « la vie est arrivée à moi par mon père ». Oui, ben, c'est quand même ça.
Ouais.
C'est très 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 différent de la société de dispense, de jouissance, qui se disait « mes parents m'empêchent, hein, jouissons sans entrave ». Vous voyez ? Là, c'est pas ça, c'est qui je suis. Et donc, d'où l'idée originale, hein, qui est pour moi assez... qui m'a surprise dans le dernier livre de Magali Grosset Callisto, c'est-à-dire, contrairement un peu à l'idée facile des boomers, ah, les jeunes n'aiment plus le sexe,
ouais.
C'est pas tout à fait ça que vous dites, hein, Magali, c'est-à-dire, il y a aussi une pulsion vitale, il y a aussi un élan dans le fait de se recentrer. Alors, ça peut être se recentrer en sortant de soi, comme il vient d'être,
ouais.
Ça, peu importe, mais c'est cette question... aussi de sur quoi je vais me construire, sur quoi je vais m'étayer, quelle représentation. Bah, si mon père ne m'a jamais parlé, qui était un taiseux et tout ça, bah, je vais aller parler avec lui. Voilà. Il va falloir que je sache.
Allez, démarche.
Hein? Donc je fais un lien là, dans ce que j'ai entendu entre les deux propos, parce que je crois que c'est ça ce que nous vivons. Nous ne pouvons pas être nous-mêmes. En plus, l'idéologie ambiante nous demande de nous auto-engendrer, hein, d'être nous-mêmes.
Absolument.
Très fortement, pas de mentir et tout ça. Et puis de nous développer, d'avoir plein de facettes. Donc c'est énorme, le boulot. Et très souvent aujourd'hui, et en effet, parfois ça se passe pas, je sais pas si on le voit en consultation, mais par le père ou la mère directement, mais par les grands-parents qui sont essentiels, hein, dans cette recherche identitaire. Voilà. Donc je trouve que c'est à ça que nous nous relions, à notre origine, sous toutes ses formes.
Eh bien, je vous propose de nous retrouver après ce beau millésime chanté par Pascal Obispo. À tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Sur les coteaux en pente, les vallons amoureux, un rayon de soleil est passé sur nous deux. J'attendais de ce ciel qu'il me fasse juste un signe. Et je vois mon château sortir du cœur des vignes. Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je suis à jamais ta terre, c'est ça, être père. Après autant d'amour, la saison des vendanges, on récolte le fruit, le meilleur des mélanges. La bouche est ronde et pleine, et le nez si discret. Quel prénom allait-on bien pouvoir te donner? Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné.
je suis à jamais ta terre. C'est ça, être père. Je ne sais pas de quoi notre histoire sera faite, mais je me sens porté. Un jour est une fête. Quelques notes légères, des regards qui caressent, où je gagne en amour comme on gagne en noblesse. C'est ça, être père. C'est ça.
Et voilà, si des papas nous écoutent, quelle image. C'est pas facile forcément d'en parler à Oranzen aujourd'hui, d'être un homme, de naître homme. Alors voilà, c'est parfois ce qu'on entend justement. Je suis là pour aussi en faire l'écho dans cette émission, cette espèce de tendance. C'est pas forcément chiffré, mais on entend cette phrase. Tu seras un homme, mon fils. Oui, il est bien gentil, Rudyard Kipling, mais en 2025, ça se résout pas. Voilà, à se battre avec des bâtons, aller chasser, cueillir des. Enfin voilà. Bref, vous voyez ce que je veux dire, Magali. C'est pas du tout aussi simple. Hein. Mais non, vous n'êtes pas non plus défaitiste. Vous êtes au contraire.
Non, au contraire, moi, je suis plutôt d'approche positive parce que dans toute révolution, il y a les germes de quelque chose de nouveau et ça permet aussi de pointer du doigt ce qui dysfonctionne. Et là, on voit qu'on arrive dans une société assez essoufflée, avec beaucoup de violence, de vulgarité.
Donc il y a les masculinistes. Donc on en a parlé la semaine dernière.
Il y a deux tendances. Il y a deux tendances actuellement qui créent un clivage sociétal chez les hommes. Donc le côté masculiniste, donc, qui va correspondre à un modèle plutôt hégémonique de force, de contrôle, de silence affectif. Et puis de l'autre côté, l'ère du doute, du soupçon, et ce qu'on appelle un petit peu aujourd'hui souvent dans les revues sociologiques, les hommes déconstruits. Donc les hommes déconstruits qui se posent beaucoup de questions, ils sont plus jeunes en général.
Ils font plus rien quoi, ils n'osent plus rien faire.
Alors les hommes, là moi je vois en cabinet de consultation, en fait là, les hommes qui se disent déconstruits sont dans le doute, ils ne savent plus ce qu'être homme signifie. D'accord. En fait ils oscillent entre deux pôles, c'est la tentation d'une virilité archaïque, d'un côté, fondée sur la performance, fondée sur la force, sur le pouvoir. Et puis de l'autre côté, la peur d'une dévirilisation qui pourrait les rendre vulnérables, fragiles, émotifs. Donc là, je pense qu'on est vraiment à un seuil, à une transition où il va falloir trouver un moyen d'articuler, d'articulation, pour éviter sinon quoi, le clivage qui mène soit au repli et à l'isolement, soit à une forme de toute-puissance.
Avec votre regard presque journalistique, Charles Wright, vous avez quand même un avis sur la question. Vous en pensez quoi de ce que vient d'évoquer Magali Lemaire, de ce qu'elle a dit sur cette espèce de questions sociologiques, au fond hein. On se retrouve avec deux courants contradictoires. On ne sait pas trop où on va, cette question-là.
Oui, bon, moi,
vous êtes inquiet ou pas?
J'ai pas de savoir particulier à communiquer, mais je me méfie. Alors, sans du tout remettre en question, bien sûr. Hein, mais je me méfie un peu des polarités. Bon, moi, les hommes que je croise, j'ai l'impression qu'ils correspondent au quotidien de mon existence, qui sont des gens normaux, correspondent à aucun de ces deux idéal types, vous voyez. Mais c'est pas pour autant que c'est facile d'être un homme aujourd'hui. Ça, j'en conviens volontiers. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, vous voyez, c'est pas...
Bah c'est déjà pas mal. Mariette, à la lumière de ce que vient de dire Magali et Charles, effectivement, Il y a tout et son contraire, quoi. Il y a des gens qui sont très contents d'être un homme, des gens qui sont très inquiets, des gens qui sont...
Alors, ce qui certainement n'aide pas aujourd'hui les hommes, c'est que les grands modèles sont rares. Les grands modèles, hein, le modèle classique, je ne sais pas, le grand médecin, par exemple. Le grand créateur, le grand artiste. Alors, il y en a, hein, le grand start-upper. Bon, en ce moment, il est un peu... voilà, mais quand même, le guerrier. Alors, si on prend une triade très connue, vous savez, dans toutes les sociétés indo-européennes, il y aurait trois hommes qui D'accord. ont construit la société. Ouais. Le guerrier, hein, le paysan, le provider, celui qui nous donne à manger...
Ouais.
Mais ça peut être des avions, ça va jusqu'à l'industrie. Et puis, celui qui a la vérité, le logos, donc le sorcier, le prêtre et tout ça. Dans la société des années 50, le provider, le paysan ou l'industriel, ou celui qui va nous donner des objets, ou celui qui va nous soigner, professeur ouais. Barnard, des gens comme ça, avait une grande... Maintenant, si vous prenez...
Notoriété.
C'était la figure du paysan, et puis ça, c'est rassurant, parce que je peux faire tiens, je vais faire un métier comme mon père, comme mon oncle, comme le copain de mon père. Bon. Ça amène les hommes sur des professions. Arrive autre chose, prenons ce cher Boris Cyrulnik, qui est un grand influenceur quand même depuis ouais. longtemps. Lui, pour moi, c'est la figure de l'intellectuel.
Du sage.
Du sage. Donc, une forme de grand sorcier, au sens tradit du terme. Bon, alors, il y en a aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont plutôt dans la philosophie et la psychologie. C'est vrai. Hein. Il commence à y avoir en Europe des sages, des prophètes, des gens qui nous disent autre chose. Bon, il y en a aux États-Unis. Soyons vigilants, hein, parce que là, ça peut être aussi une figure d'identification plus ou moins dangereuse, et là, qui irait sur la polarité ou guerrière ou négative, masculiniste. Parce que, ok, on ne peut plus rien dire, mais quand même, quand je vois les nouveaux intellectuels, c'est tous des hommes. Les nouveaux constructeurs dans la tech, c'est tous des hommes. Bon. Et puis, troisième pôle...
C'est vrai, en fait.
Hein. Troisième pôle, la guerre. Bah, écoutez, je ne vous fais pas un dessin. Mais qui, aujourd'hui, dirige le monde et nous met le feu partout, là ? Bon. Donc, réduisons un peu. Nous, en Occident, dans une société très mixte, nous avons cette part féminine de l'homme, nous avons la déconstruction. Et ça chamboule. Mais quand on regarde... voilà. Donc, je suis pour que des modèles nouveaux soient construits, parce que, de toute façon, on ne peut pas s'identifier sans mimétisme.
C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir quand même votre écho, Jarl Haï, parce que le mimétisme, qui dit mimétisme, dit voilà, mimétisme parental. Alors, je ne sais pas, Magali, effectivement, je ne sais pas si les traditionnellement, je ne sais pas ce qu'on dit, la psychologie, la clinique et tout ça, mais les femmes imitent quand même leur mère, mais est-ce que les garçons imitent tant leur père que ça? Parce qu'on voit souvent des hommes qui font exactement l'opposé, ou non, je ne sais pas si c'est... Enfin, les deux sont parallèles ou pas ?
Et alors, je vais me servir de ce que vient de dire Mariette, très justement, à propos du langage. On entend souvent cette formule de pas mal d'hommes aujourd'hui. Ouais. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire.
On est d'accord.
Et on ne peut plus...
On l'entend beaucoup, en tout cas.
Voilà. dans le « on ne peut plus rien dire », il y a une forme de compétition entre hommes et femmes qui est en train de se créer, où on voit que finalement, le langage deviendrait un outil de pouvoir, éventuellement, pour compenser, pour réparer certaines choses, pour les femmes, pour contrer un système qui a pu être dénoncé, le système patriarcal. Et donc, moi, je pense que ce rapport au langage va être essentiel dans les années à venir pour pouvoir recréer une rencontre, et j'y crois vraiment, entre les hommes et les femmes, à travers donc un langage unifié, à travers une communication en réciprocité. Et donc là, on parle de relationnel. Parce qu'aujourd'hui, un adolescent qui voit que les grands récits masculins sont en train de s'effondrer, les grands-parents, le modèle des grands-parents, le modèle des parents, eh bien, renvoie à du désenchantement ou à des doutes. Un adolescent, pour lui, c'est vertigineux s'il n'a pas de modèle, s'il n'a pas de représentation positive du masculin. Donc, à travers le retour à la parole, au langage, et j'insiste beaucoup, notamment auprès des patients, pour essayer d'approcher une authenticité, l'enjeu même de toute thérapie, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'autrui. Et donc, la parole vraie va être, je pense, un moyen dans les années à venir, je l'espère, de réconcilier les générations, mais aussi les genres.
Ouais. Vous y participez d'une certaine façon, Charlotte, sans forcément l'avoir voulu, d'ailleurs, très consciemment, dans ce dernier livre, au fond, dans ce dernier récit que vous faites.
À réconcilier quoi,
bah, je sais pas, les générations avec leurs, parce que tout tourne très 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 vite, donc les hommes des années 60, on a l'impression que c'était la préhistoire pour nous qui sommes nés 20 ans après. Enfin, c'est très curieux. Alors, on a l'impression que tout change très 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 vite la façon dont on définit un homme, dont on définit une femme. Tout explose tout le temps, dans tous les sens, on s'y retrouve plus. Et de vous lire, je trouve ça... Il y a des... Vous, les uns les autres, enfin, qui écrivent justement sur ces... vous voyez, qui détricotaient un petit... Enfin, qui enquêtaient, en tout cas, sur ce qui s'est passé dans sa famille, etc., aux générations précédentes. C'est vrai, une sorte de socle, quand même, pour comprendre qui l'on est et pour avancer, quoi, finalement. C'est quand même... Ça vous aide à avancer, d'avoir enquêté comme ça. J'imagine, ou pas,
oui,
peut-être pas.
Oui, non, mais si, bien sûr, mais il y a les contingences historiques, il y a l'évolution des modèles, etc., ça c'est sûr.
Ouais.
Mais il y a aussi, pour moi qui suis chrétien, quelque chose qui ne varie pas et qui s'appelle ce que Foucault appelait le modèle unique, c'est-à-dire la figure du Christ. Moi, ouais. Je crois que qu'est-ce que l'homme, ça nous a été montré une fois pour toutes par un vieux rabbi de Nazareth, ouais. et ça demeure, c'est-à-dire... Ouais. Douceur, humilité de cœur, bonté, présence. Alors évidemment, ça prend des couleurs différentes en fonction des. Mais moi, c'est ça mon fondement, vous voyez, plus que les modèles virilistes ou je ne sais quoi qui peuvent donner ou compliquer le fait d'être un homme dans une société historique donnée.
Oui. C'est vrai que j'avais pas pensé au Christ lui-même, hein, finalement. C'est quelle honte sur notre MRCF quand même.
L'homme maximum, disait Nicolas de Cusse.
C'est vrai que c'est
tellement
un
homme qu'il en devient divin.
Ouais.
Et ça, c'est quand même un modèle qui pour moi, bien sûr, hein,
ouais.
et qui est d'ailleurs en voie de disparition aujourd'hui. C'est comme les figures de sainteté. On ne peut plus du tout s'identifier à la sainteté héroïque qui était celle encore de Charles de Foucault. Tous les repères sont ébranlés, c'est sûr que c'est pas facile de ce point de vue-là, et je suis d'accord avec Mariette. Mais voilà.
Parce que Jésus était... Il y avait une grande part de féminin chez Jésus, Mariette. Hein. Le beau fait le féminin, pas le côté efféminé, hein. Le côté à l'écoute, le côté qu'on prête souvent aux femmes.
Et chez homo, c'est pour tout le monde, hein. C'est ouais. Hommes et femmes. C'est une figure universelle. Mais c'est intéressant, je trouve, de faire ce détour par la notion de fils. La notion de fils, elle fait partie intégrante du masculin. On peut être ou ne pas être père, mais d'une certaine façon, tout le monde est fils.
Ouais.
Et fils de mère, on voit. Ces dernières années, ça a été beaucoup, je trouve. Voilà, hein, et la psychanalyse y est allée là-dedans. Bon. Fils de père, c'est beaucoup moins investigué.
C'est vrai qu'on entend moins.
Il y a moins de choses. Mmh. Et c'est un vrai sujet, justement, romanesque aussi. On commence à voir. Il y a eu des films. Hein, il y a quand même régulièrement des choses. Même dans les séries télé, il y a souvent ce couple fils-père. Moi, je dirais, à titre, enfin, comment dire, totalement empirique, hein, et ça m'avait été corroboré par une amie psychanalyste, je ne sais pas si Gélie sera d'accord, mais c'est peut-être la relation la plus intéressante pour les hommes dans leur vie.
Avec leur père ?
Moi, je trouve que c'est... On voit une espèce de passion, mais parce qu'elle touche plus l'identité. Je dis ça, c'est un peu du café et du commerce, mais la mère et le fils, c'est l'amour. Bon, ça, c'est, voilà, c'est sûr.
Inconditionnel.
Oui.
Et le père, c'est autre chose.
Le fils et le père, c'est l'identité. Et c'est donc le rôle aussi social. Quel métier ? Est-ce qu'on fait un métier contre son père ? Bien des gens ont fait des métiers contre leur père. Hein, ça, c'est moi. Est-ce qu'on, aujourd'hui, dans la situation économique difficile, etc., je vois beaucoup de transmissions. Je suis très étonnée autour de moi, les gens qui reprennent la boutique, quoi, en quelque sorte, quelle que soit la boutique. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose qui va être intéressant à regarder, qui était un peu une vieille chose. L'entreprise familiale, et qui revient galop, là. Donc, être fils d'un père, il me semble qu'il y a là un plaisir, et peut-être parce que le lien avec les femmes est un peu blessé aujourd'hui, même très blessé à beaucoup d'égards, il me semble qu'il y a quelque chose là, dans une passion masculine, Je le dis un peu intuitivement et pragmatiquement.
C'est drôle, ça fait écho justement à la page 13 du livre de Charles Reich que je me permettrai, Charles, de lire après cette trêve musicale. Numéro 2, The Cure, Boys Don't Cry. Tout de suite, on va voir ça.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Sur Radio Notre-Dame, quelle image de l'homme faut-il transmettre eh bien, à ses fils, à son fils, à voilà, vos fils, vous qui nous écoutez, qui tendez l'oreille, Charles Haidt est avec nous, lui qui vient de sortir après Le Chemin des Estives, Le Jardin Anglais, chez Albin Michel, une retrouvaille finalement avec son propre père, Magali Crozet-Calisto, qui est psychologue, sexologue et essayiste, et qui anime le podcast Orgasmia, qui a beaucoup travaillé sur la question justement des révolutions autour du genre, du sexe, de l'orgasme, que sais-je encore. Et enfin, Mariette Darigrand, sémiologue, qui analyse, qui décrypte tous les mots qu'elle entend ici et là, ou qu'elle voit, ou qu'elle découvre sur les réseaux sociaux. Voilà, elle qui a écrit de nombreux ouvrages, Viril comme Vénus en est un exemple, elle qui anime également le blog L'Observatoire des mots. Un jour, je devais avoir 9 ou 10 ans, mon père s'est présenté sur le palier de l'appartement avec les traits tirés, la chemise déchirée et le visage orné d'un superbe cocard. Il revenait pourtant d'un voyage d'affaires. Son embarras confirma mes soupçons. Il devait être affilié au service secret. J'avais vaguement entendu dire que dans sa jeunesse, il avait travaillé à Scotland Yard. D'homme sans qualité, mon père se transmua en héros. À chaque fois qu'il revenait d'un voyage, immanquablement, un événement géopolitique advenait. La fin de la guerre froide, la mort de Saddam Hussein, la capture de Kadhafi. Un peu partout, par sa grâce, des crises diplomatiques se dénouaient, des processus de paix s'amorçaient, des régions éruptives se stabilisaient. Aussi, quand il entamait le récit de ses réunions de chantier, m'évertuais-je à lui lancer un clin d'œil ostentatoire pour lui montrer que je n'étais pas dupe. Hélas, comme il fallait s'y attendre, écrivez-vous Charles, au début de l'adolescence, ce petit roman familial s'est achevé, mes yeux se sont ouverts, le songe s'est dissipé, adieu l'agent secret virevoltant dans les coulisses des États, adieu le grand seigneur de l'ombre. Adieu le séducteur au charme fou qui chavirait le cœur des femmes de dictateurs. Mon père ne traversait plus le monde pour résoudre des conflits internationaux. Il arbitrait des litiges comptables pour des sociétés de travaux publics dans des open space à Massy Palaiseau. Je me demande si ce n'est pas le passage que je préfère dans votre livre, Charles. Mais n'empêche que c'est quand même, ce qu'on disait est un peu vrai, j'ai l'impression. C'est très empirique ce qu'affirment l'une et l'autre de nos invités ici. Mais je trouve que, vous voyez, on a l'impression que c'est vrai que pour... c'est quand même le regard admiratif d'emblée qu'on imagine. Moi, je suis pas un homme, mais hein, Magali, qui est quand même recherchée, qu'on le veuille ou non. Et c'est très sensible, quoi. Vous voyez, une déception, ça y est, l'image de l'homme, on a l'impression que du père, ça y est, c'est la grande désillusion, ça s'écroule, et alors, c'est quoi l'homme idéal? On se réinterroge et tout ça. C'est fou, c'est
relié à cette image. Un enfant a besoin de pouvoir se construire grâce au mimétisme, comme le disait Mariette.
Ouais.
Et donc, il va être à l'écoute, à l'affût en permanence du comportement de ses parents. Et notamment, là, on parlait de la construction des représentations. Pour un garçon, les comportements paternels, donc du père, vont être extrêmement précieux pour qu'il puisse soit valider, soit au contraire invalider, se révolter. Mais on voit qu'aujourd'hui, avec la déconstruction des couples, on voit avec l'absence, le travail à outrance, etc., chez les jeunes, qu'il y a une demande très très forte de liens pour pouvoir appuyer un positionnement identitaire pour se construire. Et dans un monde où tout est flou et tout est fluctuant, l'épidémie en a rajouté aussi à ce moment-là. Là, il y a un effet boomerang hein, chez les jeunes de 20 ans par rapport à la Covid-19. Donc, dans un monde où tout est fluctuant, il y a une nécessité, une demande de repères. Mais ces repères ne passent pas forcément par une demande de rigidité, mais plutôt par une demande de communication. Mmh. De communication et de modèles, et de modèles positifs. Mmh. Alors les modèles positifs, ça, on pourrait essayer de les chercher. Les représentations positives, c'est-à-dire humanistes, dépoussiérer des injonctions castratrices ou frustrantes, et puis ouvertes sur l'altérité, par exemple.
Vous gardez quelle image de en tout cas, dans votre souvenir, à ce moment-là, votre père, c'est qui pour vous, Charles, voilà, à ce moment-là précis que j'ai permis de lire à l'instant.
Quand j'étais minou,
oui.
Eh bien, je souscris tout à fait à ce qu'ont dit vos deux interlocutrices, c'est que... En fait, le problème, c'est que bon, il y a beaucoup de livres qui sortent aujourd'hui sur les pères, et ce sont souvent des pères à fantasmes, des figures très écrasantes qui prennent la lumière. Moi, c'est tout le contraire. C'était vraiment l'homme sans qualité, mon papa. D'autant plus que parce qu'on parle de la figure paternelle, mais il n'y a pas que les pères qui exercent une fonction paternelle. Moi, j'avais un oncle qui était l'exact opposé de mon père, qui était une figure d'écrivain, chef de tribu, très présent, etc. Donc, mon pauvre père. C'était l'exact opposé de. J'ai construit ma vie en opposition totale à mon père.
Ouais, c'est... On peut le dire.
Et en même temps, est-ce que ça suffit? C'est pour ça que parfois je suis un peu critique envers les explications totalisantes comme ça. Est-ce que ça suffit à expliquer mon cheminement? Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas aussi un appel plus profond? D'où vient ce qui nous anime quand ça ne vient pas de nos parents?
C'est une vraie question que vous posez là. N'empêche. Une vraie question, madame. Hein. Une belle question aussi. Et ça fait rentrer en scène l'enjeu également spirituel, puisque c'est quand même notre... quand on a la chance, en tout cas, d'y croire, c'est quand même notre père et à tous. L'image du Christ et puis l'image de Dieu lui-même. Marielle, qu'est-ce que vous répondez justement à la réponse de Charles lui-même à propos de l'image? C'est compliqué, hein?
Non, ça me faisait penser dans une chanson d'Eddie Mitchell, où il parle des mères. Hein. Mm-hmm. Il n'y a pas que les mères qui font les enfants. Et il raconte dans son enfance quand il allait fumer des cigarettes sur les fortifs là, dans Paris, je ne sais pas quoi. Et cette chanson m'a toujours touchée en tant que mère. Mais on peut l'appliquer à ce que dit Charles, c'est-à-dire en effet, il n'y a pas que les pères biologiques. Qui font les fils, l'identité masculine. Les oncles sont très importants, surtout quand c'est l'oncle maternel, c'est les grands-pères, Voilà, il faut être inspiré, c'est normal. Un enfant, j'aime bien cette idée d'aspirationnel. Voilà, c'est des gens qui, des figures qui nous donnent envie de vivre quand même. Et quand on voit un père qui va bien, qui part au boulot, qui résiste au féminin parfois castrateur, actuel ou je sais pas quoi, eh ben on a envie d'être un homme. C'est ça le truc, c'est d'avoir envie d'être un homme ou une femme ou whatever entre les deux, c'est pas grave, mais avoir envie de ça. Notre société ne donne pas assez envie. Là, je sors
de s'inspirer, hein. C'est ça.
Bah, de s'inspirer, finalement. De se modéliser, puisque les modèles ont été mis dans ce qui entrave.
Ouais.
Hein, et là, aujourd'hui, Magali le rappelait, bah, comment se construire si on n'a pas de modèle? Donc, le père, c'est très joli là dans le roman, parce que c'est ça qui fait que, enfin, dans le livre de Charles, c'est ça que fait un enfant, se raconter son roman.
Ouais.
Mon papa, ce héros. Ouais. Puisque donc, du coup, moi aussi, évidemment. Il faut garder ce mécanisme humain. Parce que si mon père n'est pas un héros, si mon père est type, si mon père est effacé par la société, etc., ben alors moi, qu'est-ce que je suis ? Et bon, ben là, on sait bien que les chiffres sont terribles aujourd'hui sur la dépression des jeunes, la santé mentale des jeunes.
Absolument.
Je crois quand même que c'est très problématique. Et là, appel au père.
On dit que le père est absent aujourd'hui.
Absent, déprimé lui-même. Attention.
Oui, exactement. Oui, déprimé lui-même, c'est la formule. Moi, là, ça me renvoie à Saint-François de Sales. J'ai eu chance d'être née dans le même village que lui et d'avoir bien connu ses descendants. Et Saint-François de Sales, en fait, met en avant la confiance, l'humilité, bien sûr, la douceur, docteur de l'amour, saint patron des écrivains. Et dans ses écrits, notamment Introduction à la vie dévote, il dit qu'il y a quand même un prérequis pour pouvoir transmettre et se sentir bien. C'est d'aimer et de se savoir aimer. Une chanson aussi bien connue. Et je pense que c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui dans l'intergénérationnel, c'est se savoir aimer. Beaucoup d'adolescents, beaucoup d'enfants vont essayer de chercher ces preuves-là auprès de leurs parents qui peuvent être absents ou accaparés par leurs propres doutes, par les conflits.
Leur boulot.
Et donc, cette confiance va être à la base de la transmission possible de modèles positifs.
Ouais.
Voilà. Donc, l'appel aussi, cette réconciliation, peut et mérite d'en passer par la confiance du lien où l'on aime et on peut aussi se sentir aimé.
Et retisser des ponts entre les générations, ça semble plus que jamais vital en vous écoutant les uns et les autres. Hein. Mariette, Charles, voilà, même quand on a l'impression de ne pas être aimé, ne pas avoir été aimé, et bah, peut-être s'intéresser à ce qui s'est passé avant, ce que faisaient nos grands-parents, poser des questions. Déjà, Charles, c'est vrai que c'est une invitation intéressante. Il n'y a pas besoin d'être romancier, j'imagine, pour le faire, même si c'est génial quand, en plus, on a la plume pour le raconter. Ça nous fait rêver, mais on peut chacun, là, appel aux jeunes qui nous écoutent peut-être, en tout cas les parents qui sont désespérés, les pères, là, qui nous écoutent, ou les mères, qui se trouvent nuls, qui trouvent qu'ils sont des mauvais pères parce qu'ils n'ont peut-être pas eu non plus des figures de pères extraordinaires, selon eux, etc., bah, détente, quoi. Finalement, c'est un peu ça, le message. J'ai l'impression. Je ne sais pas ce que je sais si Charles a quelque chose à dire, mais c'est vrai que la curiosité, ça, c'est un bon médicament. C'est un bon un antidote à la solitude dans tout ça.
Moi, je pense qu'il y a aussi...
Charles, on ne vous entend plus. Allez-y, c'est
bon,
à vous.
Non, mais c'était simplement que je rebondissais sur votre appel à partir... Et sans avoir besoin d'être romancier, évidemment, à partir enquêter chacun sur les mystères et les énigmes de l'arbre généalogique avant qu'il soit trop tard. Parce que moi, ce qui m'a un peu convaincu de partir avec mon père dans ce road trip, c'est le fait qu'il prend de l'âge et qu'à sa mort, il y a tout un pan du passé qui allait disparaître. Ouais. Donc il faut, à mon avis, y aller. Et fréquenter les cimetières, on ne fréquente pas assez les cimetières.
C'est
évidemment
vrai.
Que les morts ont des choses à nous dire, à nous transmettre des secrets, à nous susurrer à l'oreille. Donc c'est à mon avis très important de partir chercher ces origines.
Ouais.
En sachant que l'origine nous échappe toujours. C'est ça aussi que j'ai voulu montrer dans mon livre.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a, ça nous, c'est pour ça qu'au fond, c'est insaisissable, ça fuit, on n'atteindra jamais le point de départ. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est raconter des histoires. Ouais. Ce qu'a très bien compris la Bible. Évidemment que la Bible regorge de récits de Genèse, mais ce ne sont évidemment pas des événements historiques, mais c'est des histoires qu'on raconte. Mmh. C'est ce que j'ai fait avec mon père. On est parti chercher nos origines. On ne les a pas trouvées, mais en même temps, on a vécu des choses ensemble et c'est ça qui compte. Et je suis revenu avec un récit familial qui ne prétend pas être la vérité sur mon origine, mais qui est mon propre récit, vous voyez. Je pense que c'est important pour chacun d'entre nous de faire ça.
Ouais, mais merci de le raconter aussi bien, Mariette.
Ah oui, c'est
la raison, notre ami.
Ah oui, oui, complètement. Puis c'est ce thème du récit est vraiment aujourd'hui du récit personnel très intéressant. En vous écoutant, Charles, je pensais que c'était une sorte de voyage initiatique à l'envers, et j'avais envie d'imaginer le film. Je me disais, alors quel acteur là, quel couple d'acteurs extraordinaires on va avoir. Est-ce que ça va être...
Faites gaffe, il va être réadapté encore une fois.
Ah bah c'est sûr.
Mobilisez vos réseaux.
Moi, je verrais bien Gérard Darmon. Et puis Félix Moiti.
Est-ce que j'ai parlé de la barbe ?
Non, c'est pas pour ça. C'est pas mal.
Allez.
Et alors, il faut une femme, parce que j'ai oublié de préciser qu'il y a ma tante Ariette.
Ah, il y a Ariette, un truculente
Ariette.
Mon père
et moi, aussi taiseux que nous étions, il ne se serait pas passé grand-chose. Donc, j'ai eu l'idée de mettre ma tante anglaise pour faire circuler la parole.
Ah, bah là.
Il faut trouver une actrice féminine.
Et anglaise, bah là, il y en a des merveilleuses.
Il y en a. Mais une qui soit un peu cocasse. Il faudrait trouver.
Christine Scott
Thomas,
justement.
Bon, vous avez déjà le casting.
Voilà. Oui, il n'y a plus qu'à aller chercher les bons producteurs. Voilà, pour ce qui est de l'enquête, vous êtes d'accord, Madame Lapsi, vous validez Magali?
On valide.
Il est toujours bon d'aller un petit peu chercher, d'aller enquêter, surtout quand on a l'impression que ça peut réparer une blessure ou pas. Est-ce que vous iriez jusque-là, une blessure d'amour?
Ça peut réparer. Comme le dit Charles, même si l'origine est insondable, échappe par définition, s'approcher de l'origine fait qu'on se surpasse soi-même et on s'améliore toujours, on s'enrichit.
Voilà. Eh bien, écoutez, tous les papas, tous les fils qui nous écoutent, voilà, qui sont encore dans le ressentiment et autres sentiments de rejet, de haine et tout ça. Commencez par d'abord vous détendre en lisant Le Jardin anglais, Shelby Michel Jarrett, tout en réécoutant cette émission. Et surtout, être plein de gratitude pour nos parents, nos chers parents, ceux qui nous écoutent, les grands-parents qui nous écoutent, nombreux. Eh bien, voilà, sachez que nous vous aimons beaucoup. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci les amis. Merci Charles Wright et votre beau récit Le Jardin anglais, Albin Michel. Merci Magali Creuset-Calisto et votre podcast Orgasmia, ainsi que votre livre No Sex et les révolutions de l'orgasme, ce qui est sorti chez l'Observatoire en 22, ainsi que La sexualité, qu'est-ce que ça change, chez Laboret Fides. Et puis Mariette Darigrand, enfin, merci également d'avoir été là. Votre blog, l'Observatoire des mots, viril comme Vénus, pour ceux qui veulent un peu comprendre comment vous travaillez justement autour des mots, sémiologue. Merci beaucoup, les amis. Bonne soirée à tous.